I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Ambroise et je vous remercie d'écouter Culture Numérique de Siècle Digital. Vous venez de lancer un nouvel épisode qui va vous permettre de découvrir une personne et il s'agit d'Andrea Ben Saïd. Bonjour Andrea.
Salut Ambroise.
Merci d'être là.
Merci à toi de m'avoir invité.
Bah ouais, on a des choses à se dire parce qu'il y a de l'actualité en ce moment chez toi. Alors Andrea, tu étais freelance, tu es devenu chef d'entreprise avec aujourd'hui plus de 80 collaborateurs. Tu es à l'origine d'une levée de fonds de 17 millions d'euros là, qui est toute récente. Une success story qui te monte pas à la tête, car on échange avec toi de manière très libre et ça c'est chouette. Et t'as une mission qui est claire, c'est de rendre le SEO aussi structuré que par exemple peut être le développement aujourd'hui dans le web. Eh bien, je suis assez curieux de parler de tout ça et que tu nous expliques plus en détail. Alors on se lance. Tout d'abord, félicitations pour cette levée importante.
Merci beaucoup.
C'est une première levée pour Eskimos, si je me trompe pas.
Effectivement, c'est la première fois qu'on fait appel à des fonds externes pour développer l'entreprise.
Alors, les services autour du référencement naturel, ça me paraît un marché plutôt mature. Alors, j'étais étonné de se dire aujourd'hui, il y a une boîte qui peut arriver et qui peut lever autant de fonds pour accélérer, pour aller vite. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des parts de marché à capter, qu'il y a encore des défis, clairement, qui existent, c'est ça?
Bien sûr. Alors, le marché du SEO, il est mature et immature en même temps, dans le sens où nous, quand même, on s'est lancé il y a presque 10 ans maintenant. Donc, on est mine de rien un acteur un peu historique. Et c'est un marché qui était un peu poussiéré quand même, qui a mis du temps un peu à se développer. Le SEO, c'est un peu une boîte noire. On connaissait plus tout ce qui est emailing, publicité, qui sont des marchés plus professionnalisés, on va dire. Et donc, nous, on essaie de prendre le pas sur ce marché qui est encore relativement éclaté. Donc, on fait une levée de fonds importante, mais en même temps, on existe depuis 9 ans. On a toujours été profitable.
C'est vrai que c'est pas le chemin paisible d'une start-up qui commence, qui fait de la recherche et développement, et puis qui fait sa levée. Là, ça se passe différemment. C'est surprenant.
On était une boîte déjà mature, en fait. Et l'objectif de levée, c'était pour avoir de nouveaux projets encore plus ambitieux. Mais en France, on avait déjà fait un grand travail avant cela. Aujourd'hui, on se définit clairement comme le leader des agences SEO indépendantes. Voilà, on lève pas pour prendre le marché en France, mais plus pour d'autres objectifs.
Oui, parce que c'est ça, vous visez notamment l'Europe, hein, c'est ce qui est dit dans votre communication chez Eskimos. Voit-on des différences, justement, entre les différents pays d'Europe en termes d'optimisation du référencement?
Alors,
c'est
nous,
plutôt technique la question,
ouais,
mais ça m'intéresse.
On a vu ça comme une réelle opportunité parce qu'en France, on a un vrai savoir-faire sur le SEO. Il y a d'ailleurs des freelances ou des consultants SEO qui ont gagné des prix européens sur des concours SEO. Et donc, on est parti de ce constat en se disant on a un savoir-faire très bon en France qui n'est pas forcément aussi bon dans certains pays européens d'après nous. Donc pour nous, l'Europe, c'était une réelle opportunité de marcher à l'échelle macro.
Je vois. Donc là, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Mais quand on a un acteur aussi fort qu'Eskimos, j'ai une question qui me vient aussi assez rapidement à l'esprit. C'est que tu dois entretenir certainement des rapports particuliers avec Google. Google ne peut pas fermer les yeux en faisant semblant que vous n'existez pas.
On pourrait penser ça justement, mais en fait, pas du tout. Les équipes de Google sur la partie search SEO organique est totalement cloisonné, donc il n'y a aucun point de contact. On voit beaucoup de contacts dans les agences AdWords qui font du payant, il y a des account managers qui sont chez Google. Mais pour la partie SEO, et c'est ça qui fait toute la spécificité de notre métier, c'est que on doit décrypter nous-mêmes l'algorithme, faire nos tests nous-mêmes, et on n'est pas du tout aidé. Alors Google va faire des communiqués de presse réguliers sur les changements d'algorithme, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a plus de 200 critères dans l'algorithme. Donc nous, notre métier au quotidien, c'est d'essayer de les décrypter chaque jour, de faire ce qu'on appelle du test and learn. Et dès qu'on trouve une formule qui marche, on la réadapte pour nos clients. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai avantage pour les annonceurs de travailler avec des agences, de ne pas internaliser, parce qu'on a une vue globale du marché. Et donc, on peut suivre l'algorithme presque en temps réel pour savoir voilà, quand il y a des updates, quels sont les secteurs qui sont impactés, quelles sont les faiblesses qu'il peut y avoir sur les sites. Donc, mais voilà, en tout cas, on n'a pas de contact avec, avec Google, ce qui est dommage. En revanche, Google a des, ce qu'on appelle des quality writers qui vont passer manuellement sur les sites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup Google est totalement automatisé.
Des robots qui scannent.
Des robots, des crawls, etc. Mais finalement, à mon sens, c'est un peu une légende. À mon sens, il y a beaucoup d'automatisation, mais on a encore des quality writers qui peuvent passer à la main sur certains sites, et c'est pour ça que certains marchés parfois sont bousculés d'un coup, parce qu'on a les équipes justement de Google qui vont se mettre sur un marché, sur un secteur spécifique. Ça peut être des secteurs particuliers, et voilà, on voit par exemple, il y a pas si longtemps, c'était le secteur de la santé qui a été impacté. Mais en tout cas, pas de contact direct avec les équipes de Google.
On aurait même pu imaginer un rôle de policier, de voleur, parce que c'est vrai que Google, dans l'idée, l'algorithme, il n'est pas fait pour être optimisé, pour jouer avec. Il est fait pour exister et récompenser ceux qui le méritent, un peu comme une action divine où on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche. Et vous mettez les doigts dans l'engrenage, essayez de comprendre.
Et c'est toute la spécificité de notre métier dans le digital par rapport à tous les autres, c'est que c'est une science empirique. C'est-à-dire qu'on doit faire nos tests, on doit s'auto-former, et c'est un marché qui doit se professionnaliser. Donc tu parlais de maturité tout à l'heure, c'est un marché qui met plus de temps que les autres à mon avis à devenir mature, parce que il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, donc on doit une bonne agence SEO aujourd'hui doit faire beaucoup de R&D en interne pour s'ajuster sur l'algorithme en permanence.
Alors on voit que tu es un passionné et que tu as déjà une forte connaissance, évidemment, comme tu l'as dit, ça fait des années que tu es dans ce secteur. Et j'ai une curiosité qui est plus sur ton parcours, pour le coup, personnel, parce que c'est toi qui nous intéresse sur ce podcast. Comment tu t'es mis dans le web marketing? Comment ça se fait que tu t'es engagé dans ce domaine et que tu t'es mis free, justement?
C'est vrai. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait mes études en finance et je suis tombé dans le bain du digital assez vite. Finalement, je suis un peu la génération années 80. On est tous un peu tombés dans le bain du digital. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressé de me dire que en fait, le digital permet de pouvoir lancer un projet en à côté d'une certaine manière, parce qu'une fois que le site est en ligne, finalement, on n'a pas besoin d'être devant, on peut automatiser pas mal de choses. Et j'étais passionné par cette idée d'avoir quelque chose qui tourne de manière un peu seule, on va dire. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le bain du freelance. Mais avant d'être freelance, en fait, justement, j'avais voulu lancer un site de bien-être à domicile.
D'accord.
Sur lequel, justement, je voulais automatiser tous les process pour avoir des rentes, en fait, finalement. C'était des objectifs qui n'étaient pas énormes. Et donc, comme j'avais finalement peu de moyens pour développer ce site parce que j'étais encore étudiant, je suis très vite tombé dans le bain du SEO, parce que le SEO, c'est le canal le plus héroïste. Contrairement à la publicité, on peut faire à la main pas mal de choses. Et c'est là que je suis vraiment monté en compétences. Ce projet-là n'a pas abouti. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le freelancing, en me disant, je me suis tellement cassé les dents sur mon propre site que finalement, je commence à avoir une bonne expertise. Je vais aller me confronter au marché personnellement.
T'as toujours eu cette envie d'être libre, ne pas être salarié, de vivre?
Pour le coup, oui, parce que après mes études, directement, je me suis lancé à mon compte. Donc j'avais forcément cette envie. Mais pour la petite histoire, sur la période où j'étais freelance, où ça n'avait pas encore décollé, je postulais sur des postes en ligne sans trop comprendre comment était le marché, parce que j'étais très jeune. Mais je voulais me confronter, j'avais pas trouvé forcément de poste, mais voilà, j'avais un peu recherché à ce moment-là.
C'est marrant de voir sur les parcours que des fois ça peut se jouer à rien. S'il y avait
un entrepreneur, voilà, à ce moment-là,
il n'y aura pas d'esquimaux.
Je remercie les recruteurs de ne pas m'avoir pris à ce moment-là, du coup.
C'est sûr. Alors là, on est dans une salle de réunion en ce moment que tu as réservée pour nous, pour qu'on puisse se rencontrer. Et j'ai cru comprendre que ce lieu, il avait une symbolique assez particulière pour toi, parce que c'est là où tu as installé tes bureaux. Ça veut dire qu'on a parlé de toi, de ton parcours, la découverte du web marketing. Tu t'es mis indépendant, freelance. Et assez rapidement, tu as voulu déjà structurer et te retrouver dans des lieux qui émanent déjà une certaine maturité, qui pouvaient accueillir des clients, c'est cela?
C'est vrai qu'on n'est pas là par hasard. En fait, on se trouve dans le centre d'affaires où j'ai loué mes premiers bureaux. Et c'est vrai que de 2010 à 2015, quand j'étais en freelance et que je travaillais de chez moi, j'ai eu du mal à me développer. J'ai eu du mal à me développer parce que je pense qu'il y a deux types de freelance. Il y a les freelance qui sont capables de travailler de chez eux, qui sont très autonomes. Et il y a les freelance plus comme moi qui ont besoin à un moment donné d'être dans un cadre, avoir un aspect social, être entouré de personnes, etc. Cet endroit, il est spécial pour moi, parce que c'est là où, en fait, quand je suis quitté freelance, j'ai pris mes premiers bureaux ici. J'ai loué un bureau d'à peu près 20-25 mètres carrés où il y avait entre 4 places, puis après on a rajouté un petit bureau IKEA pour être à 6.
Qui est une vraie charge pour toi à ce moment-là.
Et à ce moment-là, en tant que freelance, effectivement, ça prend à peu près la majorité de mes bénéfices. Mais en réalité, ce qui est un petit peu drôle, c'est vrai que j'ai pas peur de dire que j'étais pas visionnaire à ce moment-là, dans le sens où j'ai pris ces bureaux plus pour m'acheter une hygiène de vie, une qualité de vie, venir au bureau le matin, et ça devenait vraiment compliqué de travailler de chez moi. J'y arrivais plus.
En même temps, c'est toujours facile de raconter une histoire une fois que ça s'est passé, de dire oui, j'avais vu ça comme ça.
Effectivement.
On appréciera ton honnêteté de dire
voilà,
non.
c'est non, il n'y avait pas la volonté, enfin, pas d'en arriver aujourd'hui où est Eskimos, mais en tout cas, effectivement, de mettre une petite équipe en place et de plus être seul, finalement, d'être avec des équipes.
Et après, tu as pris la voie express parce qu'en 3 ans seulement, tu passes de free à un employeur de 80 personnes. Tu as le temps de garder du recul ou là, tu t'es pris dans une lessiveuse où
alors,
ça va super vite?
Alors,
ça.
Pas du tout. J'ai du coup pas du tout pris de recul. J'en ai pris récemment, justement, avec la levée de fonds. Mais nous, chez Eskimos, on est ce qu'on appelle un peu des doers. C'est-à-dire qu'on est très opérationnel. On fait, et du coup, j'ai vraiment eu la tête dans le guidon pendant toutes ces années. Même aujourd'hui, je suis encore très opérationnel, donc difficile de dire qu'on prend du recul. Je n'ai pas le sentiment de prendre du recul aujourd'hui sur l'activité, mais plus d'être à fond dans le projet, engagé, impliqué.
Après, je suppose qu'il y a quand même des sujets qui sont apparus où tu as dû te mettre le nez dedans, le management, la structuration d'équipe, le recrutement.
J'ai pris du recul, on peut dire que j'ai pris de la hauteur en tout cas par rapport aux équipes. Dans le sens où au début, c'est moi qui venais dans les rendez-vous pour vendre les projets. Aujourd'hui, j'ai une équipe commerciale. Avant cela, je faisais aussi les audits pour mes clients, je faisais la gestion de projet. Maintenant, j'ai mes équipes qui gèrent les projets. Donc maintenant, j'ai effectivement pris de la hauteur. Et aujourd'hui, mon rôle dans Eskimos, c'est de donner une vision, d'avoir des objectifs aussi qui sont ambitieux. Mais c'est vrai que j'ai pris de la hauteur par rapport à ça. Mon rôle aujourd'hui, il est plus stratégique qu'opérationnel. Mais ça m'a pas plus tard qu'hier, je suis allé rencontrer un client qui sur lequel il y avait eu des petits soucis de communication. Je suis allé les rencontrer, on a recadré le projet. Mine de rien, je vois encore des clients et je suis assez opérationnel.
Donc on voit qu'évidemment, tes missions de tous les jours, elles ont quand même bien changé. Est-ce que des fois, tu regrettes ta liberté d'avant, le moment où tu étais indépendant et, alors on voit que tu avais aussi eu un trop-plein, l'envie de cadrer, de venir dans cette fameuse salle de réunion, de prendre des bureaux. Mais des fois, est-ce que tu n'as pas envie de te dire, cette petite après-midi où j'avais encore le temps de m'ennuyer, où j'avais le
finalement,
temps...
Ouais, finalement, pas du tout, dans le sens où moi, j'aime bien me challenger, j'aime bien avoir de nouveaux challenges. C'est aussi pour ça que, et d'ailleurs, le move qu'on vient de faire récemment l'atteste bien, dans le sens où Eskimos a toujours été une boîte profitable depuis la première année. Et moi, je suis en quête de challenge, j'ai besoin de me renouveler, sinon je peux vite tomber dans l'ennui aussi. Donc finalement, je prends plaisir dans ces nouveaux challenges qui arrivent, et heureusement qu'ils sont là. Sinon, peut-être que j'aurais pu tomber dans une phase plus d'ennui. Et c'est pour ça qu'on lance beaucoup de projets, qu'on essaye d'innover. Et ça, c'est vraiment plaisant au quotidien. Donc, je ne regrette pas la période où finalement, je pouvais être plus libre peut-être parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, je prends vraiment du plaisir.
Cette levée de fonds, en tout cas ce sujet de levée, sans parler de la levée en elle-même et jusqu'où elle est arrivée, elle a réussi, on le sait, mais en l'occurrence, elle est venue comment? C'est parce que justement, c'est ce que tu dis, tu voulais une ambition renouvelée, tu disais...
Alors, pour être totalement transparent avec toi, j'ai lancé ma boîte, ça fait plus de 9 ans que j'ai lancé ma boîte, donc je pense qu'on peut avoir des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur, et c'est vrai que quand ça fait 9 ans que tu essaies de développer ton business, comme j'ai perdu pas mal de temps sur la partie freelance, finalement, j'ai étendu le temps de mon activité. Et en fait, on est arrivé à un stade où on a commencé à intéresser certains grands groupes, parce que le métier de SEO, c'est un métier très spécifique. C'est concrètement impossible pour un grand groupe aujourd'hui de lancer from scratch un pôle SEO. Ça demande trop d'expertise, trop de technique. Et donc, plusieurs grands groupes ont commencé à venir m'approcher pour leur dire qu'ils aimeraient bien intégrer un pôle SEO, etc. Donc j'ai commencé à me dire que ça pouvait peut-être être intéressant. Tous les gens avec qui j'ai démarré, qui ont lancé leurs agences, ont beaucoup vendu pour la majorité. Et de fil en aiguille, en discutant avec eux, je me suis dit que... Parce que c'est difficile de se dire qu'on est encore au début quand on a atteint une taille qui est bonne, donc ça demande de se questionner vraiment. Mais c'est aussi quand on est dos au mur qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Et à ce moment-là, je me suis dit que il y avait encore une opportunité de marché beaucoup trop forte pour laisser Eskimos maintenant.
Comment tu fais pour prendre la décision à ce moment-là? T'es conseillé autour de toi? Parce que vu que tu es le seul à avoir lancé Eskimos, c'est difficile des fois de prendre ce genre de décision.
Effectivement, mais j'ai l'habitude de savoir prendre les décisions. Et donc, j'ai tendance à avoir mis un process, on va dire, personnel, qui sait que je finis par savoir ce que je veux. Ça peut prendre plus
de temps. On sent l'homme d'algorithme qui...
Je me suis mis dans une quête, en tout cas, personnelle. Ça a pris 12 mois, c'est vraiment long. Et à un moment donné, quand on sait s'écouter, on sait ce qu'on veut. Donc finalement, je me suis plutôt dit, voilà, on va y aller, on va aller encore plus loin et encore plus fort. Et Eskimos, voilà, c'est un projet qui peut aller encore plus loin. Et je pense que là, c'est vraiment purement une vue business, économique, etc. Et aussi Eskimos, c'est mon bébé, je me voyais pas arrêter maintenant, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à faire encore.
Ouais, il y a de l'affect qui se trouve à l'intérieur.
Il y a aussi l'affect, ouais.
Ouais, évidemment. Fait assez incroyable que tu m'as révélé quand on préparait cette interview ensemble, c'est que le métier le plus recherché sur LinkedIn est celui justement de SEO. Comment t'expliques cela?
Alors, il y a eu deux grandes études, donc ça fait 2 années de suite que le métier de SEO est le métier le plus recherché sur LinkedIn. Il y a eu une étude réalisée par Les Échos en 2019 et cette année, c'est Microsoft. Donc on peut se dire qu'ils savent bien de quoi ils parlent. Donc 2 années de suite que le métier de SEO est le plus recherché sur LinkedIn. Il faut savoir qu'il y a plus de développeurs web du coup en France que de consultants SEO, même peut-être 100 fois plus. Comme je le disais, c'est un métier qui a besoin de se professionnaliser. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc beaucoup d'autodidactes qui peuvent être très bons techniquement, mais qui vont peut-être manquer un peu plus sur la partie corporate, gestion de projet. Donc on est sur un métier qui doit se professionnaliser.
Alors, qui doit se professionnaliser. Et en plus, l'intérêt dans tout cela, c'est de se dire que si on recherche du SEO sur LinkedIn, c'est soit qu'on veut les recruter, soit qu'on veut faire appel à eux. Donc c'est bien que c'est juteux en termes de...
Clairement, l'étude de Microsoft montre que c'est l'un des principaux métiers d'avenir sur le digital. Et aujourd'hui, nous, on est en contact des annonceurs, donc on le voit bien, ils n'arrivent pas à recruter. Ça nous arrive même pour vous dire que sur certains appels d'offres, voilà, entre-temps, par exemple, je ne sais pas, le chef de projet SEO de l'annonceur part et pas de remplaçant, donc on nous appelle un peu en panique. Est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un en régie? Pour nous, c'est compliqué parce qu'on a un savoir-faire et les profils sont rares. Donc, il y a un contexte de marché par rapport à ça. Il y a une pénurie de talent sur le SEO, clairement, aujourd'hui, c'est évident.
Et d'où ton projet aujourd'hui qui serait de créer une formation, de créer une école du SEO, et un peu comme ce que tu as fait avec Eskimos, qui serait que SEO, spécialisé, on se concentre que sur ce métier, parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire sur ce sujet.
Effectivement, il n'y a pas de formation, donc nous, étant passionnés de SEO, je trouvais ça aussi intéressant de donner la possibilité à mes équipes de pouvoir transmettre. C'est un projet professionnel qui est vraiment intéressant, je pense, pour les consultants Eskimos, mais c'est aussi une bonne formule pour les personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, qui ne sont pas entrées dans le digital dès le départ ou qui veulent renforcer une expertise dans le SEO. On voit beaucoup de gens dans le digital qui sont un peu de chez 360, mais qui vont manquer d'une expertise dans un domaine particulier. On est sur un marché qui devient de plus en plus hyper spécialisé. Donc, on a eu l'idée de développer un bootcamp SEO qui serait une formation sur 2 mois. Et du coup, une formation qui serait très pratique. On a toujours été très opérationnel chez Eskimos. Et donc, je trouvais ça intéressant de dire que c'est les consultants SEO Eskimos qui ont l'habitude de gérer des clients qui vont former ces personnes-là sur 2 mois. Et on est tellement sûr de nous que sur 2 mois, on va garantir le CDI aux gens qui vont faire cette formation. On est sûr de nous parce qu'en fait, on voit les annonceurs au quotidien nous dire qu'ils manquent de profils. Et nous, on va clairement leur envoyer ces profils-là, qui sont des profils qui seront aptes à prendre le poste à la suite des 2 mois.
Je prends le Andrea d'il y a 10 ans. Tu l'aurais fait, cette formation?
Ouais, je l'aurais fait à fond, ouais. Ça m'aurait vraiment botté pour le coup, et je l'aurais clairement fait. Et on ne s'est pas lancé non plus. Pardon, on a regardé un petit peu autour des équipes, on a demandé un peu aux consultants qui se sont lancés dedans, parce que c'est vrai qu'à 10 ans, pour le coup, il y avait encore moins de SEO, pour le coup. Donc j'ai demandé aux premières personnes que j'ai recrutées. Elle aurait tout fait ce bootcamp, ces 2 mois.
Donc il risque d'y avoir une forte demande. Vous avez prévu de en termes de culture d'école, d'ouvrir au maximum, de faire un maximum de classes. Au contraire, de faire dans l'exclusivité, il va y avoir des conditions d'entrée.
On va y aller plus dans l'exclusivité parce que on associe quand même Eskimos, donc on veut recruter des gens quand même qui ont la tête bien faite, qui vont être capables qui auront de bonnes bases en tout cas. Donc il y a un process de recrutement qui va être assez sélectif effectivement. Après, on vient de lancer le site. On a déjà des demandes sur le site alors qu'on n'a pas encore communiqué dessus. On attend de voir, mais effectivement, on sera plus dans une logique sélective plutôt que faire des classes énormes de 100 personnes, etc. Ça va être des promos très avec peu de personnes et voilà, qu'on veut vraiment faire monter en compétences.
Dans notre univers du digital et du web marketing, il y a quand même un sacré paquet d'écoles, principalement privées. Donc aujourd'hui, elles ne proposent pas des modules de SEO. C'est pas à la hauteur de ce que j'entends de ce que tu dis.
Personnellement, nous, on trouve ça léger. Il y a quelques masters qui font venir des intervenants SEO, mais c'est jamais focus que SEO, c'est plus généraliste, donc ça va être un cours parmi les autres. Et puis, l'avantage aussi pour nous, c'est que c'est les consultants SEO qui vont former, et ces consultants SEO sont passés chez l'annonceur, et du coup, ont une vraie vision opérationnelle. Ils vont vraiment pouvoir guider ces gens-là vers les bonnes pratiques du secteur.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu promets le remboursement de la formation pour ceux qui ne trouveraient pas leur CDI au bout de 6 mois après avoir terminé ces 2 mois de formation. Est-ce que tu te dis qu'à la limite, toutes les écoles devraient faire cela? En tout cas, je parle des écoles privées.
Ça dépend
tenir
des
cette
secteurs,
promesse.
Des métiers, mais c'est vrai que nous, on est sur un métier qui est tellement recherché que c'est peut-être plus simple pour nous. Après, il faut être transparent. C'est pas Eskimos lance cette école aujourd'hui. C'est pas pour gagner plus d'argent, en fait. Eskimos, on est des vrais passionnés. Et c'est un vrai plaisir pour nous. Et concrètement, on va pas. Le temps investi par rapport à ce qu'on va gagner, c'est pas là-dessus qu'on va gagner de l'argent. C'est plus pour transmettre notre savoir-faire.
Et ça te crée encore un nouveau challenge, toi
c'est
qui aimes.
C'est un challenge pour nous, pour tout le monde. Et ça permet d'être toujours dans cette logique d'évangéliser, d'éduquer le marché sur le SEO. Et voilà, encore une fois, on est des vrais passionnés. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien chez Eskimos aussi.
Ok, on va atterrir tout doucement pour cette fin d'interview et on va prendre une petite news que j'ai trouvée sur siècledigital.fr. On a parlé de Google il n'y a pas si longtemps et on titrait « Google rend les annonces payantes identiques aux résultats organiques » et en effet, ça se rapproche de plus en plus. On a du mal à différencier le sponsorisé, la publicité, que les résultats qui apparaissent naturellement. Ça te fait réagir comment, toi, ces évolutions?
Alors, ça me fait rire d'une certaine manière parce qu'on comprend où veut aller Google assez facilement. Ils ont des objectifs de chiffre d'affaires qui tend chaque année et en face de ça, ils ont des utilisateurs qui cliquent de moins en moins sur la publicité. Donc cet écart fait qu'ils sont passés de 3 annonces sur certaines requêtes, ensuite à 4 annonces. Ils sont passés d'un résultat où il y avait écrit « annonce » avec un fond saumon, ensuite un fond jaune, ensuite un fond vert. Maintenant, il n'y a plus de fond, c'est écrit en noir. Et sur les mobiles, parfois, il y a écrit « ad » en noir. Et pourtant, il y a des études qui montrent que plus de 80% des utilisateurs cliquent toujours sur les résultats naturels. Et du coup, je vous repose la question. Moi, aujourd'hui, malgré ça, je clique toujours sur les résultats naturels. Et j'aime bien poser la question aux gens que je rencontre à chaque fois pour savoir quels sont vos comportements. Mais je pense qu'on est dans une ère, finalement, du ras-le-bol de la publicité. Et je pense que les utilisateurs continuent de cliquer sur les résultats organiques. Maintenant, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus en tant qu'utilisateur de Google. Est-ce que ça t'arrive de cliquer sur des résultats payants de ton côté?
Et c'est vrai que non, mais c'est vrai aussi que je suis dans le web marketing et du coup, on va dire
sensibilisé.
Surtout
pour les gens dans le web marketing.
Voilà, on est sensibilisé à ce sujet. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir
avec
aussi.
Avec les adblocks, etc.
Voilà. Alors que d'autres peut-être sont moins sensibilisés, moins sensibles aussi et moins portés
mais du coup,
sur.
Mais justement, c'est la nouvelle génération qui va prendre le pas justement sur Google et cette nouvelle génération, comme toi et moi, sensibilisée au digital, sera une population, si on peut dire, qui va cliquer, à mon avis, sur les résultats organiques. Donc, on verra ce que Google a dans le ventre. Après, je pense qu'ils ne peuvent pas non plus, à un moment donné, mettre que des résultats payants sur la première page. Ça n'aurait plus de sens. Ça biaiserait l'utilisation de Google. Pourquoi on utilise Google? Et je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à ça parce qu'il y a des moteurs de recherche qui prennent des parts de marché au fur et à mesure. En France, on est très Google. Mais en Angleterre, Google est passé en dessous des 90% d'utilisation, quand nous, on est encore au-dessus. Et je pense qu'il faut faire attention à ce phénomène. Ils sont leaders aujourd'hui, ils ont le monopole, mais voilà, je dirais que faut faire attention de leur côté par rapport à leur part de marché à surveiller. Ouais.
Ok, merci Andrea pour tous ces échanges.
Très cool d'échanger avec toi.
Et puis on se dit à très vite. On mettra les liens sur le descriptif du podcast pour retrouver ton bootcamp, pour retrouver l'agence Eskimos. N'oubliez pas de vous abonner, de parler de ce podcast autour de vous. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on grandit. Et on vous remercie pour votre fidélité et on se dit à très vite.
À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.